Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Showtime. Un épisode un peu spécial car il a été écrit par Sim. Oui, je ne suis pas le seul à l'avoir écrit aujourd'hui. Deux amis m'y ont aidé, Damien et Cindy. J'imagine que vous vous demandez pourquoi ce renfort soudain. Je vous explique brièvement. J'ai décidé de créer un petit blog de passionnés pour des passionnés en complément de Showtime. Son nom, Showcase. On y parle actu ciné, séries, jeux vidéo, livres, BD, comics, manga, etc. En gros, c'est l'émission, mais version écrite. Il y est présent ce que je n'ai pas le temps de dire. Showcase est donc un bon complément à l'émission. Et cet épisode vous est offert par trois des membres de l'équipe Showcase, qui est composé de moi, ma sœur, Damien, Cindy et Nathalie. Donc, au programme du jour, l'actu ciné, mon avis sur le dernier jeu vidéo Tomb Raider, les sorties DVD de la semaine, une nouvelle rubrique, un deuxième avis, c'est bien aussi. Le deuxième avis, c'est bien aussi. C'est un bref second avis d'une personne de l'équipe Showcase, ou de vous, auditeur, si vous le souhaitez, sur un avis ou un focus qui est passé dernièrement dans l'émission. Aujourd'hui, Cindy nous propose donc un second regard sur la mi-saison 3 de Once Upon a Time. Et pour terminer, un instant focus concocté par Damien sur la version américaine de la série Shameless. Mais avant d'entrer dans tout ce beau programme, musique avec The Pretty Reckless et Make Me Wanna Die.
Make me wanna die.
l'actu ciné, la série Supernatural va avoir droit à son spin-off, sa série dérivée. Vous voyez Les Experts ? Le spin-off des Experts, c'est Les Experts Miami par exemple. Ce petit rappel sur les « qu'est-ce qu'un spin-off étant fait ?» que je crois déjà avoir fait. Continuons sur la news. Le spin-off de Supernatural s'appellera Supernatural Bloodlines, les liens du sang en français. Melissa Roxburgh vient d'être castée pour un des rôles titres du show. Elle incarnera donc Violette et rejoint par là même le casting composé de Nathaniel Buzolic, Lucien Laviscount, Daniel Savre, Sean Faris, Stephen Martins. SPN Bloodlines, SPN c'est Supernatural en abrégé, nous entraînera à Chicago où nous suivrons une sorte de mafia supernaturelle qui gère le monde souterrain de la ville. Après Albator, c'est le film Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, qui nous arrive. Pour l'occasion, le film sobrement intitulé La Légende du Sanctuaire s'offre une nouvelle bande-annonce. Comprenez par là que le film en animation de synthèse reprendra le célèbre arc de la bataille du Sanctuaire. Fan du manga, je ne peux que vous inviter à aller la regarder. Même si on peut reprocher le redesign des personnages et des armures, une chose est sûre, ça a de la gueule. Et ça a fait son petit effet sur moi. Je pense le regarder dès qu'il sera dispo. En tout cas, d'ici là, nos amis japonais pourront le voir dans les salles obscures le 21 juin 2014. Doit-on s'en réjouir ou frémir ? Un film The Last of Us ? Produit par Sam Raimi ? Que d'interrogations, car oui, The Last of Us se prépare pour une arrivée dans les salles. Neil Druckmann, scénariste et directeur créatif de la monture vidéoludique, signera lui-même le scénario du film. Un gage de qualité pour ce projet, soutenu par Troy Baker, la voix de Joel. Le célèbre doubleur espère également avoir droit à un petit caméo dans le film, même si ce n'est qu'en tant qu'infecté ou cliqueur. Malgré des éléments qui peuvent donner confiance en The Last of Us, le film, les échecs des adaptations passées restent et les inquiétudes sont là. Faut dire que les jeux vidéo au cinéma, ça n'a pas trop de chance. Un projet que je vais suivre de près et sur lequel je ne manquerai pas de vous tenir informé. La série dérivée de Arrow, The Flash, est actuellement en cours de tournage. Plus précisément, c'est son pilote qui est tourné. Tout dépendra de cet épisode pour savoir si oui ou non, nous retrouverons le bolide écarlate dans sa propre série à la rentrée 2014. Chose qui est sûre, le projet avance bien, puisqu'une photo du costume dans son ensemble de Flash, porté par Grant Gustin, a été dévoilée à travers une photo promotionnelle. Des photos et vidéos issues du tournage n'ont pas tardé à se montrer pour nous aider à nous fixer sur le look du héros le plus rapide de l'univers DC. Là, je ne parle plus spécialement du costume que je trouve sympa et proche de la version comics, mais du rendu sur l'acteur. Car si la photo promo m'avait bien plu, là les photos et vidéos me font peur. On dirait que Flash est plus massif au niveau du tronc qu'au niveau des jambes. Ça donne un rendu assez étrange sur le coup. Bon, je l'espère tenace, car je vais dire, attendons un trailer avec effets spéciaux et tout avant de crier au scandale. Allez, je pense pas trop m'attarder sur l'actu, parce que même si on a à dire, elle est un peu plus maigre que les semaines précédentes. Puis le programme d'émission est un petit peu chargé, donc passons à l'avis sur Tomb Raider. Le cinéma et le jeu vidéo, deux univers différents mais proches à la fois. Il n'est pas rare que le cinéma s'inspire du jeu vidéo et inversement. Parfois, un jeu peut se retrouver adapté au cinéma. C'est le cas de Tomb Raider, film de 2001 qui voyait Angelina Jolie incarner la célèbre exploratrice Lara Croft. C'est un peu Tomb Raider qui a remis en avant les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière monture des aventures de la célèbre aventurière. Ce Tomb Raider est un reboot sorti le 5 mars 2013 et dans sa définitive édition le 31 janvier dernier. Ce renouveau est contacté par les soins de Crystal Dynamics. Ce sont eux qui nous ont offert le retour en force de la série avec la précédente trilogie Tomb Raider composée de Legends, Anniversary et Underworld. Ici, l'équipe a cherché à nous conter les prémices de la belle aventurière. Les débuts d'un mythe se posent ici, à travers cette aventure. Voici le synopsis du jeu. Lara vogue sur l'Endurance, à travers l'océan Pacifique, à l'est du Japon, dans l'espoir de trouver trace du royaume de Yamatai. Seulement, en pleine traversée du Triangle du Dragon, la voilà prise dans une tempête qui la fera s'échouer, elle et son équipage, sur une île mystérieuse. L'île au premier abord désertique se découvre être le lieu de culte d'une secte, les Solari, un groupuscule dangereux qui se voue à la reine Himiko. S'ensuivra alors un combat pour Lara et les siens, où la survie sera de mise pour pouvoir quitter l'île. L'intrigue peut sembler simple, mais s'enrichit grâce à la collecte de documents qui approfondissent le background du jeu. Les faiblesses que peut présenter l'histoire du jeu sont compensées par les relations humaines entre les personnages. Ainsi, on s'attache à leur triste sort, et en particulier à celui de Lara, qui va subir au fil de l'aventure les pires horreurs. Pour s'en sortir, elle va devoir survivre. Le jeu, tout du long de son développement, a joué de cet aspect survie. Qu'en est-il à l'arrivée ? D'accord, il y a la jauge d'expérience de Lara qui s'accroît tout du long de l'aventure et la collecte de matériaux pour améliorer son équipement. Mais Mademoiselle Croft va devoir souvent faire sonner les armes. Même si le jeu respecte les codes traditionnels qui font un bon Tomb Raider, que sont exploration, énigme et gunfight, en gros, séquence de tir contre des ennemis, l'action tient une place importante. Nombreux seront les combats face aux Solari. On a presque l'impression d'avoir affaire à un Uncharted Rider par moment. Au moins, une chose est sûre, le titre est beau. La qualité graphique est là et nous offre des panoramiques dignes des plus belles cartes postales. Les environnements sont variés. Jungle luxuriante, cimetière d'épave, bidonville, bunker et bien entendu, tombeau. Le tout est enrichi par une bande sonore de qualité. La musicalité rime ici avec subtilité. La musique, c'est être en retrait pour laisser place à un environnement sonore régi par la nature. Avant de repartir tambour battant lorsque l'action et ses courses entraînantes sont de mise. Bon, un petit coup de gueule pour la VF. Pour cet opus, c'est Alice David qui prête sa voix à Lara. Et je trouve que parfois elle en fait trop. Pas que sa voix ne colle pas à notre aventurière. Juste les cris et autres, enfin les... Ah, enfin, non, ça va pas, c'est pas ça. C'est on dirait qu'elle a enregistré un cri et qu'ils le remettent à chaque fois. Enfin, bon, bref, à part ça, la VF, elle est correcte, voire bonne. Mais bon, voilà, fallait que je le dise. Je pourrais continuer de vous parler du jeu en évoquant son mode multijoueur, mais non. Il est assez moyen, il ne vaut pas le online d'un Uncharted ou d'un The Last of Us. The Last of Us, voilà un bon mode multi pour un jeu basé sur la survie. Pour Tomb Raider, c'est plus basique. Trop basique. Allez, c'est parti pour l'instant 4 consciences. Car même si les points positifs peuvent être nombreux, il n'est pas impossible que je descende le jeu à l'issue. En plus, un jeu éblouissant, il faut dire ce qui est. Il est beau, très beau. Et il est encore plus dans sa définitive édition. Une aventure prenante, faisant la part belle aux émotions, qui pose les bases de la nouvelle Lara. Un gameplay soigné. Une bonne durée de vie. Une dizaine d'heures de jeu pour en venir à bout et une quinzaine d'heures pour percer tous les secrets du titre. En négatif, la queue de cheval, elle est animée d'une volonté propre, c'est-à-dire qu'elle bouge toute seule des fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune raison, et là d'un coup elle bouge. Normal. Ils y sont allés un petit peu fort, voire trop fort envers Lara. Elle prend cher, tellement cher, que ça en devient abusé. La pauvre, enfin... Des fois elle se prend des pics, des trucs dans le bide, enfin c'est juste horrible. On se dit, mais pourquoi être si méchant ? Le gameplay, le gameplay il est en négatif parce qu'il mise plus sur l'action que sur la survie. Un multijoueur dispensable et la VF qui peut déplaire. Surtout qu'on n'a pas la possibilité de mettre en VO. Dommage. En conclusion, ce Tomb Raider marque le retour de la plus célèbre des exploratrices. Bousculant ses codes, en mettant en avant de l'action plus intense qu'à l'accoutumée, le titre trouve ses marques et nous fait vivre une expérience riche et intense. La part belle est faite aux émotions et l'on s'attache aux péripéties de Lara Croft. Tout est fait pour que l'on aille jusqu'au bout afin de connaître le fin mot des débuts de sa légende. A vous de voir si vous souhaitez prolonger l'expérience avec le multi. Quoi qu'il en soit, bien que le jeu ait divisé les joueurs, une chose est sûre, une survivante est née de ce titre. Et j'attends avec impatience la suite de ses aventures. En attendant, je vais lire le comics qui fait suite au jeu moi. Bon. Pour boucler la boucle de cet avis, pour vous, The Tomb Raider de la BO du jeu Tomb Raider, composé par Jason Graves. Les sorties DVD,
here we go.
Cette semaine, dans les bacs, vous pourrez trouver...
Les garçons et Guillaume à table, à deux, et avec Guillaume Gallienne. Ça, c'est fait, j'en entendrai plus parler, j'espère.
Capitaine Phillips de Paul Greengrass avec Tom Hanks, Catherine Keener. J'ai rien contre les garçons et Guillaume à table, mais à force de le dire, d'en parler, vous comprenez, hein, j'en ai marre, c'est tout. Hein. J'ai rien contre le film. Hein. Bon, après, vous aurez aussi Évasion de Michael Avstrom avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Et aussi, ben, pas grande série cette semaine, surtout des mangas. Vous aurez de la réédition de Cosmo Warrior Zero, un coffret intégral de K et du Romeo X Juliette. C'est parti pour un deuxième avis,
c'est bien aussi.
Donc là, comprenez-le bien, c'est moi qui lis pour Cindy. C'est ma voix, mais c'est pas moi qui parle.
Très étrange cette phrase.
Bon, allez, je vous partage le deuxième avis, c'est bien aussi de Cindy. Once Upon a Time, ou l'histoire de LA série qui m'a fait passer de l'adoration à l'indifférence la plus totale. Une première saison que j'ai trouvée excellente pour cette série novatrice, familiale, me replongeant instantanément dans l'enfance en mettant en scène tous mes personnages préférés. Ensuite arrive la saison 2. En demi-teinte pour moi. Un début de saison certes satisfaisant, mais qui ne parvient pas à me replonger au sein de l'univers de cette série et de ses personnages. La deuxième partie de la saison m'a fait basculer du côté de l'indifférence la plus totale. Moi qui étais pourtant si impatiente de voir les aventures des personnages semaine après semaine lors de la première saison, j'en suis arrivé à avoir pas moins de 6 épisodes de retard. Les semaines passées et je n'avais pas envie de m'y remettre. Premièrement à cause de la déception que je ressentais face à cette saison 2 et deuxièmement face aux critiques acerbes dont j'avais eu connaissance sur ces épisodes. Finalement, j'ai décidé de rattraper mon retard en ayant toujours au fond de moi un espoir. Que de déception pour cette saison 2. Des épisodes creux, sans intrigue, avec des personnages de moins en moins attachants, etc. Tellement énervé par ce bilan que je m'étais décidé à arrêter de regarder Once Upon a Time. Quelques mois après, la saison 3 débute et en bonne sériephile, ou accro, je me décide tout de même à regarder les premiers épisodes. Et là, quelle bonne et agréable surprise pour moi! Je retrouve l'univers que j'avais tant aimé, des personnages qui redeviennent attachants, des intrigues, des actions, tout! Le fait d'être parti de Storybrooke pour Neverland a changé beaucoup de choses et a redynamisé le tout. Le voyage à Neverland peut, d'un premier abord, paraître long. Néanmoins, il permet de connaître davantage la vie de Hook, de la fée Clochette et bien entendu de ce cher Rumpel. C'est bien la première fois que mon personnage préféré peut être classé parmi les méchants. Bref, un voyage nécessaire au bien-être de cette série. J'en étais même venu à me dire que j'aimerais que Storybrooke soit rayé de la carte. Car oui, pour moi, cette ville ennuyante a propulsé la saison 2 là où elle en est. D'où mon appréhension au retour de Neverland. Finalement, cela a été bien amené et je n'ai pas été déçu. J'espère que la deuxième moitié de la saison sera de la même trempe et que je serai toujours aussi conquise. Je souligne aussi que j'aimerais vraiment voir le couple Emma-Hook se former, ainsi que le couple Prince Charmant-Blanche-Neige disparaître. Beaucoup trop gnangnan et cucu à mon goût. J'espère aussi un retour en grande pompe pour Rumpel, car Once Upon a Time, sans lui, ce n'est juste pas possible. C'est un des piliers de la série. Notons également qu'il aurait été préférable pour l'intrigue que Henry ne revienne pas à la vie. J'en ai marre que tout tourne autour de ce môme. Ces quelques dernières lignes ne reflètent que mon opinion sur certains personnages de Once Upon a Time et n'ont donc qu'une valeur totalement subjective. En bref, pour terminer, je dirais juste vivement la suite. Voilà, un premier, deuxième avis, c'est bien aussi. Donc amis auditeurs, si vous voulez participer au deuxième avis, c'est bien aussi, ben faites-le moi savoir et on mettra rapidement tout ça en place. Je pense que c'est un concept intéressant. Allez, c'est parti pour un focus sur la version américaine de Shameless. Maintenant, je parle pour Damien. Donc ma voix, mais c'est Damien qui parle.
Ça devient de plus en plus étrange tout ça.
Prenez le côté familial déjanté de Raising Hope ou de Malcolm. Le côté torturé de Skins. Mélangez le tout et vous obtiendrez Shameless US. Reprise fidèle de la version britannique Shameless UK, Shameless US séduit les téléspectateurs depuis 2011 sur Showtime, la chaîne US quoi. Il n'y a pas que mon émission qui s'appelle Showtime. La quatrième saison est en cours de diffusion aux USA et une cinquième saison est d'ores et déjà prévue. Que d'arguments qui justifient que je me sois lancé dans cette série dont je n'entendais que du bien. Eh bien, je fais partie de cette foule en délire qui noie d'éloges cette série américaine. D'habitude, je ne suis pas spécialement branché adaptation américaine, remake, mais quand on compare les affiches promo de la version UK et celle de la version US, il n'y a pas photo. Même si la version US est arrivée après, c'est celle qui me plaisait le mieux. Dans la version UK, le casting donnait l'impression d'avoir été élevé par une bande de sangliers sauvages. Concrètement, qu'est-ce que ça donne à cette version US ? Parlons de l'histoire, puis du casting. Si vous regardez Shameless, vous allez rencontrer la famille Gallagher, Frank, le patriarche, caractériel, ivrogne, irresponsable et pas père pour un sou. Fiona, l'aînée qui subvient aux besoins de toute la famille. Philippe, Dilip, qui n'est pas à l'abri d'une nouvelle idée pour gagner de l'argent. Yann, l'introverti, qui travaille à l'épicerie du coin. Debbie, Carl et Liam, les plus jeunes que l'on voit un peu moins. Kevin et Véronica, les voisins aux réserves responsables mais complètement allumés. Tout ce beau monde vit dans un quartier pauvre et essaie de se débrouiller du mieux possible. Fiona mène très bien sa barque pour gérer toute sa famille, y compris son ivrogne de père. Jusqu'au jour où un inconnu fait éruption dans sa vie d'une façon presque héroïque. Qu'en est-il du casting ? Mis à part qu'ils sont en règle générale plus agréables à regarder que leurs collègues britanniques, ces acteurs américains se révèlent dans cette série. Pour n'avoir vu que les trois premiers épisodes à l'heure actuelle, William H. Macy, Frank, Emma Rossum, Fiona, Jeremy Allen, White, Lip et Cameron Monaghan n'ont pas tardé à se faire remarquer. Mis en avant dès le début de la série, leur performance et leur complicité à l'écran donnent envie de suivre les aventures de cette petite famille pas très aidée par la vie. Chaque saison comporte 12 épisodes. Deux petites saisons d'une grande qualité. Seuls les Français les plus chanceux ont pu suivre cette série sur les canaux privés. Néanmoins, les coffrets DVD des trois premières saisons sont déjà disponibles pour ceux qui voudraient se laisser tenter. Son côté vulgaire, sans tabou, peu choqué, mais cette série vaut le coup d'œil. Je vous invite vraiment à m'accompagner dans la découverte de cette série. N'ayons pas honte de regarder Shameless. Et que de mieux pour vous aider à adhérer, ou du moins attirer vos oreilles, que le thème de la série. Par les High Strung, voici The Luck You Got. Et voilà, cet épisode de Showtime touche à sa fin. Un épisode avec un peu plus de contenu que d'habitude, enfin je crois. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter, tout comme on a pris plaisir à écrire cette émission. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires et avis pour la suite. De même, si l'idée du deuxième avis, c'est bien aussi vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, on mettra rapidement ça en place. Un grand merci à Radio Larzac pour l'enregistrement qui a fait peau neuve avec la technique là, qui est superbe. Et merci à Marie. Je vous dis à la prochaine.